On y revient notamment tout de suite dans le journal. Il est midi en temps universel, 14h à Paris.
RFI Midi, Anne Contner.
Et le grand journal de la mi-journée vous est présenté par Charlotte Hydrac. Bonjour Charlotte.
Bonjour. À la une, la bataille du second tour est lancée en France pour les législatives. Désistement, ralliement, consigne de vote. Chaque camp affine sa stratégie après le score inédit du Rassemblement National. Le Front populaire de gauche, arrivé deuxième, appelle à faire barrage à l'extrême droite. Dans le camp présidentiel, vous l'entendrez, ça n'est pas si clair. À la une aussi, un eurosceptique à la tête du Conseil de l'Union Européenne. Vous en parliez, Viktor Orban. Premier ministre hongrois prend la présidence tournante pour 6 mois, ce qui provoque un certain malaise à Bruxelles. Reportage à la frontière ultra sensible entre Israël et le Liban. Les soldats de la force internationale Finul est entre deux feux, pris en étau entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais. Et puis le décès du grand écrivain albanais Ismail Kadare, 88 ans, auteur d'une œuvre consacrée à la dictature communiste dans son pays. Il disait trouver dans la littérature les espoir de tout surmonter.
RFI Midi, la France à midi.
C'est une intense semaine de tractations politiques qui a débuté en France.
Une grande manœuvre en vue du second tour des législatives dimanche prochain. Après la vague bleu marine confirmée au premier tour hier, le Rassemblement National rafle donc plus de 33% des voix. Devant le nouveau Front populaire de gauche, près de 28%, et la coalition présidentielle en déroute avec environ 20% des suffrages. Le RN de Jordan Bardella et Marine Le Pen a donc frappé un grand coup. L'extrême droite est au porte du pouvoir, Pierrick Bonneau. Mais est-ce que le RN pourrait passer cette porte et entrer à Matignon ?
Alors sur le papier, les réserves de voix du Rassemblement National sont très réduites en vue du second tour. Pour parvenir à la majorité absolue dimanche prochain, le parti a peu de marge de manœuvre en réalité. Il espère attirer dans ses filets deux catégories d'électeurs qui n'ont pas voté RN au premier tour, ceux qui ne veulent pas élire un député de la France insoumise, et puis les déçus des désistements en cours entre la gauche et la coalition présidentielle. Et si le Rassemblement National acceptait finalement de former un gouvernement, même sans majorité absolue, l'hypothèse refait surface ces dernières heures. Le patron du RN a éludé la question ce matin en arrivant au siège du parti, mais plusieurs cadres frontistes ne ferment pas la porte. Sébastien Chenu notamment, réélu dès le premier tour hier soir, il laisse entendre chez nos confrères de France 2 que le RN assumera ses responsabilités si d'autres députés venaient à soutenir une possible majorité relative. Les regards se tournent évidemment vers les LR qui n'ont pas déjà rejoint le Rassemblement National. Certains chez nous ont tellement envie de gouverner qu'ils seraient prêts à tout, nous confiait juste avant la dissolution un député de droite.
Pierrick Bonneau, alors la prochaine étape importante maintenant, ce sera demain, mardi 18h. Les candidats qualifiés devront annoncer soit leur maintien, soit leur retrait. Ce qui est en jeu maintenant, ce sont les potentiels triangulaires dans plus de 300 circonscriptions. Le nouveau Front populaire a donné une consigne claire. Il appelle ses candidats arrivés en troisième position à se retirer là où le RN pourrait l'emporter. Nous avons 7 jours pour éviter à la France une catastrophe. C'est ce qu'a déclaré dès hier soir l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, membre du nouveau Front populaire.
Il n'y aura de notre côté aucune hésitation, aucune tergiversation. L'unique enjeu de la semaine qui vient, c'est de barrer la route au Rassemblement National et d'empêcher une majorité absolue d'extrême droite. Et donc nous sommes extrêmement clairs. Partout où les candidats qui nous représentent sont arrivés troisième, il y aura désistement face au Rassemblement National. Et nous appellerons à voter pour le candidat qui peut battre le Rassemblement National, quel qu'il soit, quel que soit son parti politique, quelles que soient les divergences qui nous opposent.
Voilà l'eurodéputé Raphaël Glucksmann pour le nouveau Front populaire. Mais dans le camp présidentiel, la stratégie de barrage ne fait pas l'unanimité. Des responsables, par exemple le ministre de l'économie Bruno Le Maire, rejettent des désistements au profit de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon.
Nous devons nous battre pour nos électeurs. Et j'appelle également tous nos électeurs, lorsque nos candidats ne sont pas au second tour, à voter pour un candidat du camp social-démocrate, c'est-à-dire un représentant du Parti socialiste, du Parti communiste ou des Verts.
Ouais, les filles, la France insoumise, donc c'est comme Édouard Philippe.
Non, je combats le Rassemblement National, mais je ne vote pas pour la France insoumise. Je ne vote pas pour la France insoumise parce que la France insoumise a pris des positions qui sont contre la nation française. Parce que la France insoumise, c'est le communautarisme. Parce que la France insoumise, c'est l'antisémitisme. Parce que la France insoumise, c'est la violence. Parce que la France insoumise, c'est un député qui joue avec l'effigie d'un ministre sur une tête de ballon. Et que je ne veux pas ça pour la France.
Donc un député LFI est aussi dangereux qu'un député RN pour vous?
Je mets jamais de signe égal entre la France insoumise et le Rassemblement national. Je pense que c'est un raccourci qui ne tient pas compte ni de l'histoire, ni de la mémoire, ni des individus. Mais je redis que pour moi, la France insoumise est un danger pour la nation, comme le Rassemblement national est un danger pour la République.
Voilà, le ministre de l'économie Bruno Le Maire chez nos confrères de France Inter ce matin a noté cette réaction sur les marchés financiers à l'ouverture. La Bourse de Paris a ouvert sur un bond de 2,59%. D'après des analystes, les marchés seraient soulagés pour l'instant du fait que le RN n'ait pas obtenu une majorité absolue. Les législatives françaises qui font réagir aussi à l'étranger, le Kremlin à Moscou notamment, dit suivre les tendances très attentivement, sachant que l'extrême droite française est régulièrement accusée de proximité avec Moscou. Et puis le Premier ministre polonais, Donald Tusk, lui, évoque un grand danger, je cite, pour la France et l'Europe.
C'est justement dans ce contexte d'une présidence française affaiblie que la Hongrie prend la tête du Conseil de l'Union européenne ce lundi.
Oui, la présidence tournante, incarnée par le Premier ministre eurosceptique Viktor Orban, présidence pour 6 mois après la Belgique. Une présidence hongroise qui inquiète les milieux européens, étant donné les relations pour le moins difficiles entre les autorités hongroises et les institutions européennes. Mais le chercheur Lukasz Masek relativise. Il souligne que le rôle de cette présidence tournante est avant tout d'ordre symbolique. Donc cela, pour lui, ne chamboulera pas le fonctionnement de l'Union européenne.
Il y a à la fois une importance symbolique, il y a une visibilité, il y a une capacité effectivement à influencer l'agenda du Conseil, tout ça c'est des choses importantes, mais fondamentalement ce n'est pas une présidence, une présidence coordonne davantage, communique, mais n'a pas un pouvoir formel réel. Donc de ce point de vue-là, je ne m'attends pas à ce que cette présidence change fondamentalement les choses, elle ne va pas changer les rapports de force tels qu'ils existent, mais c'est vrai qu'elle donnera une visibilité au gouvernement hongrois et à Viktor Orban en particulier, plus grande que d'habitude.
Le chercheur Lukasz Masek, propos recueillis par Julien Chavanne.
Si le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, les thématiques qui agitent les pays membres sont aussi celles de la campagne pour les législatives au Royaume-Uni.
Oui, c'est la dernière ligne droite avant les élections britanniques de jeudi. Ça s'annonce assez mal pour les conservateurs au pouvoir depuis 14 ans et le Premier ministre Rishi Sunak. La campagne a duré 6 semaines et elle a été intense, Emeline Vin.
L'immigration, la santé et l'économie ont été largement évoquées, pas toujours de manière constructive, mais les jeux sont faits, estime Justin Fisher, professeur en sciences politiques à l'Université de Brunel.
Il ne fait aucun doute que les conservateurs vont perdre et que les travaillistes vont l'emporter. La seule incertitude, c'est l'ampleur de la majorité travailliste. Au cours de la campagne, le Labour a creusé l'écart avec les conservateurs.
Les libéraux-démocrates pourraient redevenir le troisième parti du pays, devançant à nouveau les nationalistes écossais. La défaite annoncée des conservateurs s'explique par une vague de dégagisme assez particulière après 14 ans au pouvoir.
La plupart des gouvernements voient leur popularité s'émousser au fur et à mesure de leur mandat. Ce gouvernement-ci a gagné en popularité jusqu'en 2021, mais a dégringolé ces 3 dernières années. Il y a eu les fêtes à Downing Street, Liz Truss, puis l'immense insatisfaction liée à Rishi Sunak. La chute a été incroyablement rapide.
Un scandale de Paris a d'ailleurs éclaboussé une dizaine de candidats. La déontologie et la réforme du système électoral font partie des préoccupations des électeurs dont la défiance pourrait affaiblir la participation. Emeline Vin, Londres, RFI.
Au Moyen-Orient, le cycle sans fin attaque représailles dans la bande de Gaza. Israël a frappé ce lundi le sud de l'enclave après le tir de 20 roquettes contre son territoire. Des tirs depuis la région de Khan Younes, revendiquée par les brigades Al-Quds, branche armée du djihad islamique. Les opérations et des combats violents se poursuivent aussi au nord du territoire, dans la ville de Gaza. Par ailleurs, des dizaines de prisonniers palestiniens, dont le directeur
directeur de l'hôpital Al-Shifa de Gazaville ont été libérés par l'État hébreu. Et dans une vidéo, ce directeur, le docteur Mohamed Abou Salmiya, détenu pendant plus de 7 mois, accuse Israël de torture.
Et alors que la guerre à Gaza fait toujours rage, un autre front à la frontière entre le Liban et Israël menace de faire éclater une guerre régionale.
Tous les jours, des affrontements éclatent entre le Hezbollah, le parti chiite allié de l'Iran, et Israël, matérialisé par une ligne bleue. La frontière entre Israël et le Liban a été tracée par les Nations Unies. Plus de 10 000 casques bleus du monde entier y assurent une mission de maintien de la paix au sein de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Leur mandat ne leur permet pas d'intervenir, seulement de surveiller. Et donc là, ils se retrouvent aujourd'hui pris en étau entre les feux croisés d'Israël et du Hezbollah. Reportage de notre correspondante au Liban, Sophie Guignon, auprès du contingent espagnol de la FINUL en patrouille le long de cette frontière ultra-sensible.
Au sud du fleuve Litani, nous suivons une patrouille dirigée par le lieutenant-colonel espagnol José Irisarri.
On va à Kfar Kila.
Direction la ligne bleue, la frontière entre le Liban et Israël, au cœur des affrontements entre les combattants du Hezbollah et l'État hébreu.
Les patrouilles sont la seule manière d'empêcher une armée irrégulière de s'établir ouvertement dans la région, ce qui augmenterait le risque d'une guerre ouverte.
Nous entrons dans le village de Kfar Kila, les immeubles en ruine défilent.
C'est le village qui a été le plus attaqué par les Israéliens.
Soudain, le premier véhicule blindé de la patrouille fait demi-tour. Un ordre vient d'arriver, il faut se réfugier immédiatement dans la base la plus proche.
Bien reçu. Niveau d'alerte 2.
Que se passe-t-il ?
C'est à la demande de l'armée israélienne.
Quelques minutes après notre départ, Kfar Kila sera de nouveau bombardé par Tsahal. Malgré la présence de 10 000 soldats de l'ONU, cette zone frontalière est aujourd'hui une poudrière qui pourrait enflammer le Moyen-Orient. Sophie Guignon, de retour de Kfar Kila, RFI.
Deuxième jour de discussion entre les talibans et la communauté internationale au Qatar, conférence Doha 3. C'est la première fois que des discussions de ce genre ont lieu avec l'ONU, plusieurs pays, en présence des talibans qui ont pris le pouvoir à Kaboul en 2021. Les autorités talibanes veulent mettre sur la table aujourd'hui la question des sanctions financières et bancaires imposées à l'Afghanistan. Aux États-Unis, décision très attendue ce lundi, décision de la Cour suprême à majorité conservatrice sur l'immunité pénale invoquée par Donald Trump en tant qu'ex-président. Donald Trump, candidat républicain à l'élection de novembre, affirme ne pas pouvoir être poursuivi pour sa tentative d'inverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020. Alerte à l'ouragan dans le sud-est des Caraïbes. Il s'appelle Beryl. C'est le premier ouragan de la saison en Atlantique. Il est en approche. Il a été rétrogradé en catégorie 3 après être passé en force 4. Alors catégorie 3, ça correspond tout de même à des vents pouvant atteindre les 195 km/h. Les habitants des îles du Vent sont appelés à se mettre à l'abri.
C'était une immense figure des lettres européennes. L'écrivain albanais Ismail Kadare s'est éteint ce lundi à Tirana en Albanie.
Il avait 88 ans, auteur d'une cinquantaine d'ouvrages allant du roman au théâtre et à la poésie, et avec toujours la volonté, Olivier Roger, d'affirmer sa liberté face au totalitarisme.
J'essaye de faire une littérature normale dans un pays anormal, disait Ismail Kadare. Il était né dans l'Albanie communiste du dictateur Enver Hoxha et avouait avoir survécu grâce à la littérature qui lui donnait, disait-il, le courage de résister. Élevé au rang de grand officier de la Légion d'honneur en octobre dernier par le président Macron, Ismail Kadare n'a pourtant jamais eu à attendre la gloire et les honneurs. Son premier roman, Le général de l'armée morte, publié en 63, lui a valu une reconnaissance internationale et une flopée de prix prestigieux. Si la littérature était pour lui une seconde patrie, c'est pourtant bel et bien sa première, l'Albanie, qui fut au centre de son œuvre. Sa vie épouse les soubresauts politiques d'une nation basculant dans l'obscurantisme. Plusieurs fois contraint à l'autocritique publique, Ismail Kadare aura longtemps joué au chat et à la souris avec le régime. Et aux donneurs de leçons qui lui reprochaient de ne pas avoir été suffisamment sincère avec les dictateurs, il leur envoyait cette question : faut-il être sincère avec les bandits ou les fauves ? Exilé en France en 1990, il n'aura cessé de clamait son amour de la littérature, au panthéon de laquelle il rejoint désormais ses maîtres à penser, Goethe, Cervantes ou Shakespeare.
Olivier Roger. Et puis, c'est un coup d'accélérateur dans une enquête phare du phénomène hashtag MeToo. Les cinéastes Benoît Jacquot et Jacques Doyon sont en garde à vue à Paris, à la brigade de protection des mineurs. Ils sont accusés depuis plusieurs mois, notamment par l'actrice Judith Godrèche et d'autres femmes accusées de violences sexuelles. Les deux hommes rejettent ces accusations.
Charlotte Hydrac, nos auditeurs vous retrouvent tout à l'heure pour un prochain journal. À tout à l'heure, il est 14h15 ici à Paris et nous allons parler de l'actualité sportive. Bonjour Christophe Diremzian.
Bonjour Anne.
Et du football pour commencer, suite des huitièmes de finale de l'Euro. Au tour de l'équipe de France de jouer sa qualification, ce sera face à la Belgique.
Oui, deux voisins, pas vraiment à la fête. Ça fait un petit moment, depuis une certaine demi-finale de Coupe du Monde 2018, que les Diables Rouges aimeraient bien utiliser leur fourche pour piquer au vif l'orgueil des Bleus. Le problème, c'est que les coéquipiers de Kevin De Bruyne, qualifiés avec une seule victoire en trois matchs et une défaite d'entrée de jeu face à la Slovaquie, n'ont pas franchement brillé jusqu'à présent. Bon, les Français, pas davantage. Même bilan comptable et même impression qu'il va falloir montrer beaucoup plus pour espérer aller loin. Kylian Mbappé, le capitaine tricolore, en a parfaitement conscience, tout comme il sent les Belges capables de faire un coup malgré leur faux départ.
Ils ont perdu contre la Slovaquie, oui. C'était un premier match de poule. On n'a pas battu les Pays-Bas, on n'a pas battu la Pologne. Donc je pense qu'eux aussi peuvent se dire qu'il y a des choses à gratter. Maintenant, c'est une bonne équipe. C'est une équipe qui a perdu des joueurs importants, mais qui a une nouvelle génération qui est arrivée, des jeunes joueurs qui ont faim d'écrire l'histoire de leur pays. Donc c'est toujours une menace. On sait contre quel type d'équipe on va jouer. Il y a toujours des grands joueurs dans leur équipe. C'est une très bonne équipe, donc c'est des matchs qu'on a envie de jouer et on est très impatients de jouer contre eux.
Kylian Mbappé avec Antoine Grenier, France-Belgique à Düsseldorf. Coup d'envoi 16h, temps universel, à suivre dans toutes nos éditions.
Et dans la foulée de ce match, le Portugal espère également se faire une place en quart de finale.
En écartant pour cela la Slovénie, un adversaire a priori à sa portée, mais méfiance, ce n'est pas parce que vous avez fini en tête de votre groupe que c'est du tout cuit pour le huitième de finale. Parlez-en d'ailleurs aux Anglais, passés à deux doigts de la trappe contre les Slovaques. La prudence est donc de mise pour Bruno Fernandes, le milieu portugais, pour qui le mot d'ordre c'est de pratiquer un jeu d'usure.
On va devoir être patient car on sait qu'ils défendent avec un bloc très bas, avec beaucoup de joueurs dans la surface. Ils sont très agressifs et très forts physiquement. On va essayer de les épuiser avec le ballon, les faire courir parce qu'on sait aussi qu'ils sont très bons en contre-attaque. Ils ont deux attaquants qui combinent très bien même quand ils sont isolés. Je pense que le plus important pour nous sera de s'appuyer sur nos forces et leur laisser le moins d'espace possible.
Bruno Fernandes, à quelques heures de Portugal-Slovénie à Francfort. Rendez-vous tout à l'heure, 19h, temps universel. Un petit mot de la Copa América aux États-Unis. Deux quarts de finale déjà connus. L'Équateur, qui a achevé sa phase de groupe avec un 0-0 face au Mexique, retrouvera dans la nuit de jeudi à vendredi l'Argentine, victorieuse du Pérou, 2-0. Le lendemain, le Canada affrontera le Venezuela.
Le Tour de France à présent, le peloton est en pleine troisième étape, la dernière 100% italienne.
230 km entre Plaisance et Turin, parcours taillé a priori pour que les sprinteurs puissent enfin s'exprimer après deux journées passées à tirer la langue sur des pentes parfois très raides. Tadej Pogacar, grand favori pour la victoire finale, a déjà pris le pouvoir. L'arrivée du jour est prévue entre 15h et 15h30, temps universel.
Et puis du tennis, c'est parti pour la quinzaine de Wimbledon.
Et tradition oblige, c'est le tournant du titre. L'Espagnol Carlos Alcaraz qui foulera en premier dans un petit quart d'heure le gazon du cours central pour y affronter son premier adversaire, l'Estonien Marc Layal. Le numéro 1 mondial, l'Italien Yannick Sinner, entamera pour sa part son parcours contre l'Allemand Yannick Hanfmann. Parmi les rencontres du tableau féminin, Yasmine Paolini, la finaliste du dernier Roland-Garros, italienne, qui entre en lice contre l'Espagnol Sara Sorribes. En revanche, on l'a appris tout à l'heure, la Biélorusse Arina Sabalenka, numéro 3 mondial, vient de déclarer forfait en raison d'une blessure à l'épaule. Enfin, personne n'en doutait vraiment, mais Simon Biles sera bien aux Jeux Olympiques de Paris. La mégastar américaine de la gymnastique s'est officiellement qualifiée cette nuit à l'occasion des sélections nationales à Indianapolis. La quadruple championne olympique et 23 fois championne du monde voudra faire oublier son cauchemar des Jeux de Tokyo, son retrait de plusieurs épreuves pour cause de perte de repères dans l'espace.
Merci Christophe Diremzian. L'actualité sportive est aussi sur internet, rfi.fr.
RFI Midi, le monde à la mi-journée. Anne Cantner.
14h19 à Paris et nous revenons maintenant sur les élections législatives en France après un premier tour largement dominé par l'extrême droite. Pour la première fois de son histoire, le Rassemblement national a obtenu 33% des suffrages. La coalition de gauche est derrière avec 28% et la majorité sortante encore plus loin derrière. De l'avis de toute la presse européenne, le pari d'Emmanuel Macron avec ses élections anticipées est raté et lui affaibli. Notre invité pour en parler est politologue, spécialiste des relations internationales et professeur émérite des universités à Sciences Po. Bonjour Bertrand Badi.
Bonjour.
On va commencer peut-être par évoquer l'Europe. Ça n'est pas rien, hein, parce que la France est l'un des pays moteurs de l'Union européenne. Alors, évidemment, on ne sait pas encore quel sera le résultat des législatives, si le RN pourra obtenir une majorité absolue dimanche prochain ou si la gauche arrivera en tête avec une majorité relative. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une cohabitation. Quelles seraient les conséquences au sein des institutions européennes ?
Oui, alors je me permets déjà de reprendre un petit point. On n'est pas sûr qu'il y aura une cohabitation, car la cohabitation suppose quelque chose qu'on a connu par trois fois sous la Ve République, à savoir une majorité absolue dont disposerait le gouvernement qui serait formé et le Premier ministre qui serait à Matignon. Or, dans l'état actuel des choses, et pour la première fois sous la Ve République, cette configuration n'est pas acquise.
Elle n'est pas acquise. En tout cas, il y aura un Premier ministre qui ne sera pas du même bord politique que le président français.
En tout cas, est un terme un peu imprudent, parce que s'il n'y a de majorité nulle part, rien n'empêche le président, et ça a été évoqué plusieurs fois, faire appel à une personnalité dite technique ou technocratique et qui transcenderait les partis politiques. Mais je ne veux pas fuir votre question. Effectivement, l'Europe est un des grands chapitres qui se distingue par son incertitude aujourd'hui. Dans le cas du Rassemblement national, on a assisté depuis un certain temps à un très curieux dégradé. On partait de très haut ou de très bas, ça dépend des goûts, c'est-à-dire d'une vision de l'Europe qui était négative, voire destructrice. Il a été évoqué un temps l'hypothèse du Frexit, mais sans aller jusque-là, on a évoqué l'hypothèse d'une sortie de l'euro, et sans aller même jusque-là à des demandes, des exigences de réformes profondes des institutions européennes de manière à renforcer la souveraineté de la France. Maintenant, le propos est beaucoup plus prudent. Il reste, et tout le monde le sait bien, qu'on ne peut pas faire progresser l'Europe sans aimer l'Europe, c'est-à-dire sans véritablement investir dans son identité même l'idée que l'avenir, c'est celle de l'intégration régionale. Ça, le Rassemblement national n'en veut pas. C'est une rupture dans l'histoire de la Ve République et je dirais même dans l'histoire de la République française depuis qu'elle est partie au traité de Rome de 1957. Donc, que va-t-il se passer dans cette situation ? Eh bien, trois éléments explosifs. Premier élément, une négociation avec un président de la République qui reste un fervent défenseur de l'Europe et qui n'a cessé d'appeler à une refondation de l'Europe. Que sortira de cet affrontement, nul ne le sait. Le deuxième affrontement, il est à l'intérieur du Conseil européen. Vous savez que le Conseil européen est quand même l'institution clé, fondamentale, pivot des institutions européennes. Et là, il va falloir s'attendre à quelque chose qu'on avait un peu oublié depuis un certain temps, qui sont les nuits de blocage, c'est-à-dire où il deviendra très difficile à des partisans, de fervents partisans de l'Europe, je pense en particulier à l'Allemagne, mais on pourrait aussi trouver bien d'autres partenaires, mais je dis l'Allemagne à cause du couple franco-allemand, il sera très difficile de trouver un consensus. Et puis, il y a plus surprenant, un troisième blocage, qui est les nationalistes européens, même s'il s'agit de la même famille, c'est une famille qui est extrêmement divisée. On est sur le point d'avoir trois groupes parlementaires européens d'inspiration nationaliste, puisque Viktor Orban vient de prendre l'initiative d'en créer un nouveau.
C'est ce qu'il a proposé hier.
Voilà. Et on sait par ailleurs que la sensibilité des différents partis nationalistes européens, que ce soit Madame Meloni en Italie, que ce soit les formations d'extrême droite associées au pouvoir en Europe du Nord ou que ce soit les formations du même type relevant de l'Europe orientale, sont très différentes. Et puis après tout, un nationaliste, qu'est-ce que c'est ? C'est celui qui prétend d'abord défendre les intérêts nationaux. Il n'est pas rare de voir des nationalistes se quereller entre
oui,
eux.
Oui, donc sans garantie d'unité au sein des institutions européennes. Il nous reste à peine une minute, je suis désolée, il nous reste peu de temps, Bertrand Badi. Je voulais vous entendre sur les conséquences possibles sur l'Ukraine, puisque ces derniers mois, Emmanuel Macron a vraiment tiré ses alliés pour aller plus loin à plusieurs reprises. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence, un président français un peu affaibli ?
Ben, je dirais quand même que l'affaiblissement, il a commencé il y a plus longtemps, lorsque, pour la première fois, Emmanuel Macron a parlé de l'éventualité ou de la non-exclusion d'envoi de troupes au sol et qu'il a été nettement mis en minorité à l'intérieur de l'Europe comme à l'intérieur de l'Alliance Atlantique. Donc là, les clivages existent et je dirais qu'ils ne pourront qu'être davantage accusés. Chacun sait la proximité qu'il y a entre le Front National, le Rassemblement National, pardon, et la Russie de Poutine, ce qui va
avec beaucoup de questions qui s'exprimaient d'ailleurs aujourd'hui dans la presse ukrainienne où l'on s'interrogeait sur ce que pourraient être les conséquences de cette montée donc historique de l'extrême droite en France. Merci Bertrand Badi d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes politologue et professeur émérite des universités à Sciences Po.
RFI Midi.
Autres élections législatives anticipées au Royaume-Uni, on votera jeudi. Là aussi, la majorité sortante est très mal engagée. Et dans cette campagne, il y a un tabou, le Brexit et ses conséquences économiques. Les candidats en parlent à peine, pourtant les effets se font encore sentir. En revanche, le Brexit a profité à l'Irlande voisine. En témoignent notamment les constructions d'immeubles ininterrompus, d'immeubles de bureaux sur les docks de Dublin. Reportage de notre correspondante Clémence Pénard.
Les grues poussent comme des champignons dans Grand Canal Docks, aussi appelé Silicon Docks. C'est dans ce quartier d'affaires que sont concentrés tous les géants de la tech. Grâce à une imposition plus qu'attractive, 12,5% sur les sociétés contre 20% en moyenne, les GAFAM ont choisi de s'installer à Dublin il y a déjà plusieurs décennies. Et évidemment, ces multinationales stimulent la productivité du pays. Selon les derniers classements de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'Irlande est le pays le plus productif au monde.
Hi, Clémence. Nice to talk to you. How are you?
Emma Howard est économiste à l'Université technologique de Dublin.
Nous avons le plus haut niveau dans l'UE, mais lorsque vous décomposez ces chiffres, vous vous rendez compte qu'il y a de grandes différences entre la productivité du secteur étranger et celle du travail domestique. Une grande partie de cette productivité au travail est donc tirée des entreprises étrangères, pharmaceutiques ou bien des entreprises de technologie de l'information et de la communication. L'éthique.
L'attrait de l'Irlande en tant que pays où faire des affaires ne se résume pas uniquement à sa fiscalité. D'abord, l'Irlande dispose d'une main-d'œuvre très qualifiée. Ensuite, depuis le Brexit, l'Irlande est désormais le seul grand pays anglophone au sein de l'Union européenne. Un avantage qui profite au cabinet de recrutement Approach People, fondé par le français Laurent Girard-Claudon.
On note un changement suite au Brexit. Les entreprises qui ont relocalisé leur activité dans la finance ou la technologie, qui ont quitté notamment la ville de Londres pour venir à Dublin.
Et selon Émilie Narcy, directrice des opérations chez Approach People, Dublin séduit également ceux qui n'arrivent plus à s'installer au Royaume-Uni.
Il n'y a pas besoin de visa, les démarches administratives sont extrêmement simples. On reste avec ce charme de la ville de bord de mer, avec les montagnes à côté, donc c'est le Londres en mieux.
Annika, employée originaire de Berlin, partage le même constat.
J'ai eu quelques conversations comme ça, où l'on m'a dit « Ah, je voulais aller à Londres, mais maintenant je ne peux plus ». Donc j'ai l'impression que Dublin a vraiment été remis sur le devant de la scène. Et c'est un très beau pays, malgré la pluie.
En termes de recrutement, l'Irlande serait ainsi la grande gagnante du Brexit. Clémence Pénard, Dublin, RFI.
Reportage de notre correspondante en Irlande. Une version longue de ce reportage est à écouter ce soir dans l'émission Accent d'Europe ou quand vous le voulez sur l'application RFI Pure Radio.
RFI à Libreville, 104 FM.
Tout à l'heure sur RFI, vous m'en direz des nouvelles est à Avignon avec Jean-François Cadet.
Avec la metteuse en scène espagnole Angélica Lidl qui dérange la cour d'honneur en invitant démons et fantômes pour les funérailles du cinéaste Ingmar Bergman. Et Entrée des artistes, la nouvelle création d'Ahmed Madani qui réunit jeunes filles et garçons autour d'une question. Pourquoi voulez-vous faire du théâtre ?
Vous m'en direz des nouvelles ? Rendez-vous avec Jean-François Cadet du lundi au vendredi à 15h10 TU.
RFI.